Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Stream et sessionnel pour parler, hein, pour je sais pas, discuter. Voilà. Comment ça va? Tout ça, tout ça. Est-ce que tout roule chez vous? Est-ce que vous passez un bon jeudi? Voilà quoi. On va parler du The Event, ouais, voilà. Les dramas du The Event à côté, c'est que dalle. Hein. On va faire un stream Flight Simulator, allez c'est parti. Allez, on vole en avion aujourd'hui, et on parle pas de politique. Incroyable. Lui il sourit parce qu'il pense aux chiffres de son stream. Ah non 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 non. Ah non non non. C'est secondaire ça. Non non, moi je suis curieux de voir ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Ça va être funky hein. Ça va être funky au possible. Est-ce que la candidature de Philippe a poussé Macron à mettre un PM de LR? Non, 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 il avait déjà envisagé de mettre Xavier Bertrand, donc ça change rien. En tout cas, pour celles et ceux qui se réveillent, il est 13h53 et il y a quelques dizaines de minutes, on a appris que le président de la République, Emmanuel Macron, avait nommé un Premier ministre. C'est la fin du suspense de l'été, c'est la rentrée politique, ça part en live. Le Premier ministre sera donc Michel Barnier. Pour combien de temps? Ça, on sait pas. Alors là, abonnez-vous, hein. Parce que c'est là que ça commence pour Michel Barnier. Michel Barnier, Premier ministre. PTDR, c'est qui? PTDR, c'est qui? Michel Barnier est un homme d'État. Michel Barnier est un responsable politique de droite qui est très respecté. Dans son camp et dans d'autres camps, Michel Barnier a eu des fonctions très importantes par le passé. Il a été ministre de plein de choses les unes après les autres et des ministères importants, notamment le ministère des Affaires étrangères. Et puis surtout, Michel Barnier a été commissaire européen chargé du marché intérieur, le poste qu'occupe actuellement Jean-Louis Borloo. Vous savez qu'à la Commission européenne, il y a un commissaire par État membre. Et c'était Michel Barnier qui était le commissaire français chargé du marché intérieur. Michel Barnier a donc eu un rôle non négligeable en matière économique pendant plusieurs années au plus haut niveau européen. Là aussi, une stature d'homme tout à fait respectée. Mais c'est surtout la suite qui va vous amuser parce que Michel Barnier, après avoir été commissaire européen, il a eu un nouveau rôle, figurez-vous, à la Commission européenne et même à l'Union européenne, pas seulement à la Commission. Thierry Breton, j'ai dit quoi? Je me suis encore trompé, j'ai encore dit Xavier Breton. Salut Mimi! Michel Barnier, il a été le négociateur en chef du Brexit pour l'Union européenne. C'est-à-dire que le Royaume-Uni s'est cassé de l'Union européenne, en tout cas a annoncé sa volonté de se casser de l'Union européenne. Et l'Union européenne a donc nommé un bonhomme, Michel Barnier, en lui disant: tu vas être notre négociateur, en notre nom à tous, au nom des 26, tu vas négocier le plan de sortie du Brexit avec le Royaume-Uni. Et ça a donc été Michel Barnier qui a fait le bras de fer avec le Royaume-Uni pendant des mois et des mois et des mois de négociations de traités d'échanges internationaux avec le Royaume-Uni. Et il est donc reconnu, Michel Barnier, au niveau européen, comme étant un bon négociateur. Et c'est peut-être ce que Emmanuel Macron a souhaité. De se dire, alors comment te dire? Le Royaume-Uni, c'était de la pisse. À côté de ce qui t'attend, mon Michel, tu as une assemblée nationale tripolarisée où tout le monde veut censurer tout le monde. Allez, bon courage, hein. Allez, allez, salut, hein. Tu me tiens au courant? Il l'envoie au bûcher. Ah, je sais pas. Écoutez, on verra bien ce que Michel Barnier va dire, va proposer. Ce qui va se passer dans les jours qui viennent, c'est que Michel Barnier va rencontrer les forces politiques. En fait, il va faire le boulot qu'a essayé de faire Macron, mais cette fois-ci, ce sera plus Macron, ce sera Michel Barnier qui va aller voir les forces politiques en leur disant comment on fait pour éviter une motion de censure, qu'est-ce que vous voulez, comment est-ce qu'on met les choses en place, etc. Donc voilà quoi. Un RN compatible? Non. Michel Barnier n'est pas un RN compatible. Michel Barnier ne fait pas partie des ciotistes de chez LR. Michel Barnier n'est pas à l'extrême droite. Comment ça, du coup, si? Validé par le RN. Non, le RN a dit qu'il ne le censurait pas par principe. Je vous rappelle que le RN... Non mais faut pas. Le RN a déclaré hier par la voix de Marine Le Pen qu'il mettait des conditions à la non-censure. Donc on verra si Michel Barnier les respecte, ces conditions. Donc on verra. Que dit Méluche, d'après toi? Méluche, il n'est pas content et il dit destitution. Ça n'aura pas changé, ça. Il fallait s'y attendre. Olivier Faure dénonce un déni de démocratie et il dit, je cite, nous entrons dans une crise de régime. Jean-Luc Mélenchon donc parle d'une élection volée et appelle à la destitution du président de la République. Renaissance dit que on va pas censurer tout de suite, mais on va mettre nos conditions aussi. Les électeurs de gauche, on peut aller se faire cuire un œuf. Non, parce que la partie n'est pas finie. C'est ce que je vous disais en introduction en disant que Michel Barnier va ouvrir des négociations. Si ça se trouve, là, Michel Barnier, il va durer que quelques semaines, hein. C'est, encore une fois, l'enjeu, c'est la motion de censure. Barnier est-il centre-gauche compatible? Ce sera à lui de le dire. Ce sera à lui de le dire. S'il ne veut pas se faire censurer par le Parti socialiste, ça va être dur, hein, parce que vu ce que dit Olivier Faure en parlant de crise de régime et de déni de démocratie. Est-ce que Macron va prendre la parole? Ça n'a pas été annoncé, ça. On n'a pas d'annonce de prise de parole d'Emmanuel Macron, d'allocution. Il va surtout donner des gages au RN pour éviter la censure. Est-ce que c'est l'intérêt de Marine Le Pen de ne pas censurer Michel Barnier? C'est quoi son intérêt à Marine Le Pen? Est-ce qu'elle a intérêt à foutre le bordel, à éviter qu'il y ait un gouvernement stable pour provoquer de nouvelles élections législatives l'année prochaine, de manière à éventuellement avoir cette fois-ci une victoire de Jordan Bardella? Ou est-ce qu'au contraire, elle a intérêt à ce qu'il y ait une stabilité du macronisme des dernières années pour être élue en 2027? Tu peux nous rappeler de quelle force politique il a besoin pour ne pas être censuré? Regarde, on va retourner sur le simulateur de coalition. Hop, hop. Alors, Michel Barnier, il vient du parti Les Républicains. On peut se douter qu'ils vont pas le censurer tout de suite. Hop, pardon, excusez-moi, c'est mon réveil. Il va probablement ne pas être censuré par Horizon, Ensemble et les démocrates. Et Elliott, je sais pas encore. L'Assemblée LVMH, c'est classe, hein? C'est pas moi, c'est le Figaro. merci le Figaro pour la pub, hein. C'est important. Non, mais c'est important, faut payer les journalistes et tout, c'est chiant. Donc Michel Barnier, il a un peu plus de 200 députés avec lui, quoi. Contre lui, il a la France insoumise, la gauche démocrate et républicaine, les écolos, les socialistes. Donc un peu moins de 200. Et il a peut-être le RN et à droite. À droite, c'est le parti de, c'est le groupe, pardon, d'Éric Ciotti. Tu penses qu'il a trouvé un accord avec le RN avant de le nommer? Je sais pas, on sait qu'Emmanuel Macron a eu Marine Le Pen au téléphone mardi soir. C'est là qu'elle a fixé ses conditions, les fameuses conditions dont on parlait hier, c'est-à-dire ne pas se faire traiter comme des pestiférés, nous les élus RN, instaurer la proportionnelle. On verra si Michel Barnier dépose un projet de loi pour faire la proportionnelle aux prochaines législatives. Et les troisièmes conditions, c'était être ferme sur l'immigration et l'insécurité et ne pas matraquer les classes populaires en termes de pouvoir d'achat. À quel point c'est plausible une démission ou une destitution d'Emmanuel Macron? La différence entre la démission et la destitution, c'est que la démission, ça dépend d'Emmanuel Macron. Donc c'est lui qui décide s'il démissionne ou pas. Est-ce que c'est plausible? Là, à court terme, non. La destitution, ça ne dépend pas du président de la République, ça dépend de la haute cour. La haute cour, c'est le Parlement qui se réunit en haute cour, mais pour se réunir en haute cour, il faut qu'il y ait un vote au Parlement, et ce vote, c'est les 3/5 de l'Assemblée et les 3/5 du Sénat. Autant dire que c'est improbable. À quel point c'est legit de mettre un PM LR alors que c'est le plus petit groupe de députés? En fait, ça, on s'en fiche un peu. C'est pas important le groupe d'où il vient, l'important c'est le nombre de groupes qu'il a avec lui. Tu peux venir d'un groupe minoritaire et... Regarde, Lucie Castet, elle vient de nulle part. Elle est dans aucun groupe, elle a 0 députés, Lucie Castet. Mais elle a 193 députés qui sont prêts à la soutenir. Et ben voilà, ben Michel Barnier, c'est pareil, il vient d'un petit groupe, mais ça, c'est pas très important. Tu peux réexpliquer la proportionnelle aux législatives? Actuellement, les législatives, celles où vous avez voté en juin dernier, ça se fait au scrutin majoritaire par circonscription. Dans chaque circonscription, on élit un bonhomme ou une nana pour devenir député. C'est ça un scrutin majoritaire. Un scrutin proportionnel, on laisse tomber les circonscriptions et on répartit le nombre de sièges à l'Assemblée nationale à la proportion du score de chacun des partis politiques. Voilà, c'est ça la différence. Évidemment, Marine Le Pen, qui est arrivée largement en tête avec Jordan Bardella aux élections européennes, elle a intérêt à la proportionnelle pour se retrouver avec 33% des députés. Est-ce qu'il nommera des ministres RN? Je ne pense pas. Je ne pense pas que Michel Barnier nomme des ministres RN. Le RN, pour l'instant, a simplement annoncé qu'il ne voterait pas de motion de censure. Ça ne veut pas dire qu'ils vont participer au gouvernement. C'est comme LFI avec Lucie Castet, si vous voulez. Pareil. Et des ministres PS, ça, je pense pas non plus. Je pense pas non plus qu'ils nomment des ministres PS, puisque le PS va voter la censure. Est-ce qu'on pourrait imaginer Xavier Bertrand au gouvernement? Ouais, on pourrait. On pourrait. Est-ce que c'est possible un gouvernement avec des ministres de tous les partis de l'Assemblée? Ça s'appelle un gouvernement d'union nationale. Et c'est typiquement le genre de gouvernement qu'on fait quand on est en guerre. Genre Première Guerre mondiale, il y avait un gouvernement d'union. Avec tous les partis étaient représentés au gouvernement. De toute façon, le gouvernement, il avait un seul objectif, gagner la guerre. On laisse tomber tout le reste, les vraies formes, les histoires de... la guerre. Mais sinon, non, en dehors d'un contexte guerrier ou d'urgence absolue, on fait pas de gouvernement d'union nationale, non. J'arrive après la guerre, mais pourquoi LR alors que le NFP a la majorité? Le NFP n'a pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale, il a une majorité relative, qui est contrebalancée par une autre majorité relative, qui est l'union entre les macronistes et LR. Les macronistes et LR, a priori ce qui devrait être la base du gouvernement Michel Barnier, ce sont des gens qui sont trop... ce sont des gens qui ont plus de voix que le NFP. Il pourrait peut-être nommer des ministres PS pour fragiliser Olivier Faure. Ça m'étonnerait. Enfin, je vois bien le Parti Socialiste exclure ses ministres. Autant un gouvernement Cazeneuve, on aurait pu en discuter, autant un gouvernement Barnier, un socialiste qui participe à un gouvernement Barnier, je suis désolé, il se fait virer du parti. Hein. Ciao, camarade. Pas... Est-ce qu'il y a deux tours dans une proportionnelle? On peut faire une proportionnelle à deux tours, c'est possible. Les élections européennes, il y a un seul tour. Mais les élections, tu peux faire des élections à deux tours, ouais, avec des règles de maintien au second tour. Et des possibles fusions de listes. un socialiste comme Manuel Valls ou Éric Besson, mais ils sont plus au PS depuis longtemps, eux. Éric Besson, il est plus au PS depuis 2007. Ça commence à faire beaucoup. Emmanuel Valls, il est plus au PS depuis 2013. Non, pas 2013. C'est plus tard, c'est 2017. Valls socialiste? Ouais, Manuel Valls socialiste. Manuel Valls a été socialiste autant que Jean-Luc Mélenchon. Pareil, pendant des décennies. Les mêmes décennies d'ailleurs. T'es fou, hein? Est-ce qu'il y a une limite de motion de censure? Il y a une limite de nombre de motions de censure que tu peux voter, que tu peux signer, pardon, en tant que député, par session parlementaire. Mais il y en a suffisamment. Enfin, il y aura des motions de censure. De toutes les manières, Michel Barnier, là, bon courage à lui, parce qu'il va avoir besoin du 49-3. Et je vous rappelle que chaque 49-3 ouvre la possibilité d'une nouvelle motion de censure. Donc, va y en avoir des motions de censure. J'arrive peut-être un peu tard, mais est-ce que tu peux nous présenter la ligne de Barnier? Michel Barnier n'a pas une ligne très originale. Michel Barnier est un homme d'État, un homme de droite, libéral économiquement, conservateur sur les valeurs. Il a été à plusieurs reprises ministre de gouvernement dans lesquels il avait des ministères importants. Hein. Il a été au budget, je crois. Il a été à l'agriculture, ça je me souviens. Je crois même qu'il a été à la santé, à la solidarité, un truc comme ça. Il a fait plein de ministères. Mais surtout, l'identité politique de Michel Barnier est devenue importante à partir du moment où il est devenu commissaire européen. Il est devenu commissaire européen au marché intérieur en plus, donc pas le plus petit des portefeuilles de la Commission. Et ensuite, il a été le négociateur pour l'Union européenne du Brexit. Donc pro-Europe, ah Michel Barnier est pro-européen, oui ça assez clairement, Michel Barnier est pro-européen. Alors en même temps c'est marrant parce qu'il a été candidat à la primaire des Républicains pour 2022. Michel Barnier était candidat pour être le candidat des Républicains à la présidentielle. Finalement vous vous souvenez que ça a été Valérie Pécresse qui a gagné cette primaire. Michel Barnier a été éliminé au premier tour avec 25% des voix de mémoire. Et je me souviens que dans sa courte campagne pour essayer d'avoir l'investiture, il avait dit, ouais, il faut que la France désobéisse des traités européens. Et vraiment, mais tout le monde l'avait regardé en mode, mais Michel, bah non. Enfin, je veux dire, c'est surtout pas toi. Qu'est-ce que ça t'a cramé le cerveau de bosser à Bruxelles pendant 10 ans là? Et puis après, il s'était repris en disant, non, c'est pas ce que j'ai voulu dire en fait, que non, mais en fait, voilà. En matière de protection de la souveraineté économique, il faut que les pays puissent réindustrialiser, machin et tout. Enfin bref. Il s'était un peu perdu dans son argumentaire à ce moment-là. C'était un peu marrant. La NUPES va-t-elle voter la censure avec le RN? Je suis au regret de t'annoncer que la NUPES est morte et que le nouveau Front Populaire est né. C'est sensiblement la même chose, sauf qu'il y a deux fois plus de socialistes dedans. Et ceci étant dit, oui, le nouveau Front Populaire va voter la censure contre Michel Barnier, ça j'ai aucun doute là-dessus. Question bête, mais qu'est-ce que tu appelles le libéralisme économique? Libéralisme économique est une doctrine intellectuelle, politique et économique qui vise à favoriser l'autonomie des acteurs, autant consommateurs que producteurs, de manière à booster les échanges commerciaux pour favoriser le développement économique d'un pays. Voilà. Je t'ai fait la version ultra courte. Plutôt, en Europe, en tout cas, c'est plutôt une politique de l'offre qu'une politique de la demande. Voilà, c'est des gens qui vont chercher à favoriser l'activité des entreprises en baissant le coût que payent les entreprises, notamment dans les charges. Et parmi les charges, il y a les cotisations, mais pas seulement. et favoriser la concurrence également et le libre fonctionnement du marché. Plutôt Uber que taxi G7. Ça dépend les libéraux sont pas tous les mêmes, mais ça c'est plutôt Macron, tu vois. Le macronisme, il est très pro-Uber face à taxi G7, effectivement. Michel Barnier, j'en sais rien. Le NFP ne fait que 30% des voix. Tant que les autres se mettent d'accord, le NFP est là pour la figuration. Non, c'est pas de la figuration, c'est de l'opposition. Quand t'es minoritaire à l'Assemblée nationale, tu es dans l'opposition. Tu t'opposes. Tu fais ton boulot d'opposant. Mais par définition, t'as pas le pouvoir. Enfin, c'est un peu le principe en démocratie quand même. Il faut gagner les élections pour être au pouvoir. Ou alors, faire alliance. Est-ce que tu penses qu'il y aura un vote de confiance? Je ne pense pas, non. Du coup, les LR ne sont pas dans l'opposition? Ah bah, a priori, non, les LR deviennent dans la majorité. Le problème, c'est qu'on utilise traditionnellement en France le mot majorité pour désigner le camp au pouvoir, parce que par définition, avec le fait majoritaire de la Ve République, tu es au pouvoir quand tu as une majorité à l'Assemblée nationale. C'est pour ça qu'on dit la majorité. Sauf que depuis Elisabeth Borne, il y a des majorités relatives. Donc du coup, t'es plus majoritaire, mais t'as quand même le pouvoir. Donc on dit, bon, on continue à dire la majorité par facilité, mais il va falloir qu'on trouve un autre mot. On va dire le camp au pouvoir. Mais faites-moi confiance, je vais jamais réussir à m'en souvenir et je continuerai à dire la majorité. Faut-il redistribuer les postes à l'Assemblée car la majorité a changé ? Non. Non, parce que c'est l'Assemblée, elle n'a pas changé, elle. Il y a des postes qui sont confiés à l'opposition, mais le seul poste, à ma connaissance, confié à l'opposition, c'est la présidence de la Commission des Finances, qui est actuellement occupée par Éric Coquerel, qui est un député LFI. Et LFI est bel et bien dans l'opposition à Michel Barnier. Rassurez-vous. Comment ça se passe, Charles de Courson, rapporteur général du budget, plutôt dans l'opposition? Charles de Courson ne se classe pas trop dans une logique d'opposition ou de majorité. Il fait partie de ces députés un peu électron libre, indépendants. On appellerait ça les indépendants, tu vois, aux États-Unis, au Royaume-Uni. Il est autonome, indépendant, et il aura un rôle non négligeable de négociation sur le budget. Effectivement, Charles de Courson, ouais. Lyot, c'est toujours l'opposition. Non, Lyot, c'est pas toujours l'opposition. Lyot, ça a été souvent l'opposition, mais pas toujours. Comment Barnier va-t-il faire pour que le RN ne vote pas la censure ? Eh ben, j'en sais rien. Est-ce qu'il va leur apporter des gages particuliers? Est-ce qu'il va mettre en place la proportionnelle? Ça, on va voir. Hein. Peut-être. On va écouter ensemble et on va suivre en direct sur cette chaîne le discours de politique générale de Michel Barnier. On verra ce qu'il nous dit. Les ministres démissionnaires ne sont plus en poste? Si, pour l'instant, si. Parce qu'il n'y a pas encore de ministre qui a été nommé. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais il y a deux jours. Excusez-moi, je repense à la discussion qu'on avait. Si le RN ne vote pas les motions de censure de la gauche, alors Michel Barnier peut gouverner. Évidemment, c'est ce qui va se passer. Vu que la gauche refuse de voter les motions de censure de l'extrême droite. Ou alors, il faut que Lyot dépose une motion de censure. Mais pour déposer une motion de censure, il faut 58 députés. Elliott, ils en ont 21. Et ça m'étonnerait que la gauche co-signe une motion de censure avec le RN. Même s'il y a Liotte dans le tas. Est-ce que quelqu'un connaît l'heure du discours de Michel Barnier? Il n'y a aucun discours de Michel Barnier qui a été annoncé. Hein. Alors je ne sais pas à quel rythme ça va avoir lieu, mais moi, pour moi, dans les jours qui viennent, Michel Barnier va passer un temps fou au téléphone et à rencontrer des responsables politiques pour essayer de faire un gouvernement. Il ne va pas prendre la parole tout de suite. Peut-être qu'il va faire une interview aux 20h, c'est possible. Le RN va censurer Barnier ? A priori, non. Passation à 16h, passation à 18h. Ah, vous n'êtes pas tous d'accord. Il y en a qui disent 18, il y en a qui disent 16. Moi, je ne serai pas en stream hein, pour la passation, hein, je vous le dis tout de suite. C'est pas giga important une passation. Hein. Petit serrage de main sur le perron de Matignon. Le nouveau Premier ministre félicite son prédécesseur, le prédécesseur félicite son successeur en lui souhaitant bon courage. Pas ouf, pas ouf. Le discours de politique générale, c'est pour dans quelques jours ou dans quelques semaines. Alors ça, c'est une très bonne question, puisque pour qu'il y ait un discours de politique générale, il faut que le Parlement soit réuni en session. La prochaine session ordinaire commence le 1er octobre, donc on peut attendre jusqu'au 1er octobre pour avoir un discours de politique générale, ou alors le président de la République convoque une session extraordinaire du Parlement. Et ça pourrait être potentiellement dès la semaine prochaine. C'est quoi un discours de politique générale ? Un discours de politique générale, comme son nom l'indique, c'est le Premier ministre qui monte à la tribune de l'Assemblée nationale et qui prononce un long discours dans lequel il explique aux députés quelle va être sa politique. Ou quelle est la politique qu'il propose. Et dans son discours, il annonce qu'il a l'intention de réformer tel truc, il annonce qu'il y aura un projet de loi pour ça, il annonce qu'il y aura un calendrier pour ci, il annonce qu'il y aura des concertations avec machin, il annonce peut-être, je sais pas, l'ouverture d'une conférence sociale sur les salaires avec les partenaires sociaux, enfin voilà. C'est le moment où le Premier ministre commence en général son ministère, son travail, en disant aux députés, aux représentants de la nation, voilà quel est mon projet. Et à l'issue d'un discours de politique générale, il peut y avoir, c'est pas automatique, mais il peut y avoir un vote de confiance. Un vote de confiance, c'est tout simple, hein. On demande aux députés qui est-ce qui est d'accord avec ce que vient de dire le monsieur. Et ceux qui lèvent la main, ils font partie de la majorité, ils soutiennent ce discours de politique générale, ce projet. Et les autres, ceux qui votent pas la confiance, ils sont dans l'opposition. Ils disent « bah nous, on n'est pas d'accord ». Voilà. Barnier, il est plutôt pro-européen, bah, dans le sens où il a été commissaire européen et négociateur en chef pour l'Union européenne du Brexit. Oui, Michel Barnier, on peut le dire, sans trembler des genoux, il est pro-européen. Pourquoi tout le monde parle de d'homophobie avec Barnier ? Parce que je crois que Michel Barnier, au début des années 80, quand il était jeune député, a voté contre la dépénalisation de l'homosexualité. Qui est intervenu de mémoire en 1982. La gauche est arrivée au pouvoir, avec François Mitterrand, ils ont aboli la peine de mort, et une partie de la droite a voté contre cette abolition. Ah, c'est dès 81 la dépénalisation ? Eh ben voilà, bah c'est comme la peine de mort. Et ensuite, la gauche a fait voter la dépénalisation de l'homosexualité, et toute la droite a voté contre à l'époque. Après, c'est un vieux vote 81, je pense qu'il faut regarder ce qu'a dit Michel Barnier au moment du mariage pour tous, par exemple. Le mariage pour tous, c'est plus récent, c'est 2013. Enfin, je dis c'est plus récent, putain, c'était il y a plus de 10 ans. Genre tu pouvais aller en prison parce que tu sortais avec un gars à l'époque. Je sais plus comment c'était écrit dans le code pénal, mais je crois que c'était le délit de sodomie qui devait rester une espèce de vieux truc qu'on ramenait du 19e siècle qui était toujours dans le code pénal. La réalité est que c'était très 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 peu appliqué par les juges. C'était une loi qui était un peu tombée en désuétude de fait, mais elle était toujours dans le code pénal, donc il fallait quand même l'abolir, cette merde. Et voilà. Le Premier ministre représente-t-il le peuple ? Absolument pas. Le Premier ministre ne représente pas le peuple. Le Premier ministre participe au pouvoir exécutif avec le président de la République. Ce qui représente le peuple, c'est l'Assemblée nationale. Dans sa diversité. Et le Premier ministre, pour gouverner, a besoin, dans le meilleur des cas, de l'assentiment de la majorité des députés. Dans le pire des cas, à minima, de ne pas être censuré. Tu dis des bêtises, rien à voir avec la sodo. Ok, donc le délit de sodomie avait déjà disparu du code pénal. Alors c'était quoi qui était encore dans le code pénal en 1981? C'était le délit d'homosexualité? Le délit d'homophilie? Je sais pas comment ils appelaient ça à l'époque, enfin je sais pas. Homo était une circonstance aggravante. Ah ouais. C'était délit d'homosexualité. Ok. Signé par Pétain en 42. Ah bah en plus. Ah bah super. Ah bah on avait des petits trésors dans notre code pénal, dis donc. D'accord, d'accord. Ouais, c'est pas étonnant, hein. Philippe Pétain, effectivement, ça m'étonne pas. Mais putain, il a fallu attendre 1980 pour qu'on dégage cette merde. Ouais. Barnier, c'est quel genre de droite ? Barnier, c'est une droite classique. Barnier, c'est une droite classique. Enfin, franchement, il est entre le chiracisme et le sarkozyisme. Il n'est pas dans le... dans une forme d'ultralibéralisme très macronien. Il n'est pas non plus dans une... dans un conservatisme bon train où on change rien. Il est pour la sécurité, il est pour le contrôle de l'immigration, il est pour le renforcement des frontières sans doute. Enfin, ne faites pas l'erreur d'être étonné que ce ne soit pas un homme de gauche. Voilà, on va le dire tout de suite, comme ça va calmer tout le monde. Ce n'est pas un homme de gauche, Michel Barnier. Voilà, ça c'est dit. C'est un homme de droite. Droite classique. Ah bon ? Ouais, je suis désolé. Mais comment c'est possible de ne pas être de gauche ? C'est vrai ça ? C'est fou. Un jour, mon père, il m'avait dit, tu sais, il n'y a pas la droite et la gauche en politique. Il y a les gens qui ont raison, il y a les gens qui ont tort. Ok, papa. c'est pas l'analyse politique la plus fine, mais c'était la sienne. Je reconnais. Voilà, écoute, très bien, on a le droit. Hein. Maintenant, tu finis ta soupe et tu vas au lit. Bref. Michel Barnier, Premier ministre. Rien n'est joué, putain. Rien n'est joué. Enfin, je m'en fous. Hein, Michel Barnier, Premier ministre, ça m'intéresse pas. Je me demande bien combien de temps il va durer et quel gage il va apporter à quel camp pour réussir à faire quoi comme programme. Et voilà. Et je vous rappelle que la gauche... à elle seule, ne peut pas faire obstacle à un gouvernement. Merci Albanit qui offre 5 subs. Albanit qui est dans le camp de ceux qui ont raison. Eh oui. Est-ce qu'il sera encore là le 2 octobre ? Bah, c'est même pas sûr. Hein. « On s'est fait avoir, bravo, il ne sera pas censuré. Bah, c'est exactement ce qu'on disait l'autre jour. Si la gauche veut censurer un gouvernement, elle a besoin de l'extrême droite. Et si l'extrême droite refuse de censurer, eh ben le gouvernement n'est pas censuré. Le RN a annoncé qu'il ne censurerait pas le gouvernement Barnier, mais qu'il pourrait se raviser suivant son discours de politique générale d'après Le Monde. Pas étonnant, évidemment. Marine Le Pen ne signe pas un chèque en blanc à Michel Barnier. Elle dit a priori on le censure pas, mais attention Michel. Attention, hein. Si tu fais des dingueries de gauchistes, là, genre nous traiter de facho, on te censure. Voilà, c'est ça qu'elle dit Marine Le Pen. Michel Barnier est moins supposé d'être censuré par le RN qu'un autre LR. Bah, le seul autre LR dont on a parlé ces derniers jours, c'est Xavier Bertrand. Xavier Bertrand, c'est un LR foncièrement anti-RN. Il a battu Marine Le Pen en 2015 et à nouveau en 2020 au régional. Non, en 2020, c'était les municipales. Je sais plus, c'était quand les régionales, 2019 ? Je sais plus. Voilà. Vous savez, Bertrand, Premier ministre, Marine Le Pen, elle censure direct. Évidemment. C'était 2021, les régionales. Merci beaucoup. C'était pas pendant la guerre du Covid ? Merci beaucoup à Amino Asil qui offre 5 subs au chat. Merci beaucoup, c'est très généreux. Est-ce que mettre un Premier ministre LR, c'est pas un moyen pour Emmanuel Macron de diluer les votes de l'extrême droite aux prochaines présidentielles ? Ton raisonnement marcherait si on n'avait pas déjà eu des Premiers ministres LR. Pardon de vous rappeler que Édouard Philippe, Jean Castex étaient des hommes politiques de droite venant de LR. Alors ok, ils avaient quitté LR, mais quand même. Donc non, la preuve que non. J'ai bien l'impression que les électeurs RN, ils s'en foutent. Barnier va quitter LR du coup ou pas ? Bah pourquoi faire ? De toute façon, il n'est pas élu LR. Il n'est pas député, Michel Barnier. Ce sera un gouvernement technique ? Eh ben, on verra. Objectivement, on verra. Ça dépendra de son discours de politique générale, ça dépendra de ses marges de manœuvre possibles, de sa capacité à esquiver les motions de censure. Mais esquiver des motions de censure, ça fait pas tout. Il faut trouver des compromis, il faut réussir à faire avancer des lois, il faut... Tu peux pas faire tes 49-3 tout le temps. C'est pas possible, c'est interdit par la Constitution, donc il y a bien des moments où il va falloir qu'il y ait des votes. Peut-être que Michel Barnier va proposer des lois qui vont convenir au NFP et que certaines lois vont être votées par le NFP. Et pas par le RN. Ah. Pour ceux qui ont la mémoire courte, je tiens à vous rappeler que la constitutionnalisation de l'IVG... Ça a été voté par la gauche et les macronistes, main dans la main. Et le RN aussi, tiens d'ailleurs, c'est vrai qu'ils avaient voté aussi pour. Pas tous, ouais, pas tous, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'un ministre démissionnaire peut être nommé ministre à nouveau ? Absolument ! Oui, tout à fait. Il est possible que parmi toutes les têtes que vous avez vues dans le gouvernement démissionnaire de Gabriel Attal, il y en ait certaines qui continuent dans le gouvernement Michel Barnier. C'est possible, absolument. Darmanin peut rester à l'intérieur. Ça m'étonnerait, compte tenu du fait que Darmanin a déclaré lui-même qu'il ne serait pas ministre de l'Intérieur à nouveau. Rachida Dati peut rester à la culture. C'est possible. Mais bon, Rachida Dati, ce qu'elle veut, c'est la mairie de Paris. Nicole Belloubet à l'éducation nationale, c'est possible. Peut-être que Michel Barnier va dire « Je souhaite de la stabilité, je ne veux pas foutre le bordel dans tous les services publics les uns après les autres, je souhaite conserver dans certains ministères une forme de continuité et je souhaite que Nicole Belloubet reste ministre de l'éducation nationale. » Désolé si la question a été posée, mais est-ce qu'il y a un risque de motion de censure ? Alors, tout le temps, par définition, il y a un risque de motion de censure. En l'état actuel des déclarations des camps politiques, le nouveau Front Populaire a l'intention de censurer Michel Barnier. En revanche, le Rassemblement National a déclaré par la voix de Marine Le Pen qu'elle ne souhaitait pas, dans un premier temps, censurer le gouvernement de Michel Barnier. Elle a dit qu'elle attendait d'entendre ce que Michel Barnier a à dire lors de son discours de politique générale. Et ensuite, on verra. Michel Barnier va-t-il faire un tweet pour le The Event ? Il faudrait qu'il recrute un CM d'ici demain. Ça me paraît un peu short. Je pense que c'est pas son urgence là, Barnier, de recruter un CM. On attend octobre du coup ou session extraordinaire avant? Très bonne question, je ne sais pas. Je ne sais pas si Michel Barnier va arriver à l'Assemblée à partir du 1er octobre ou si ce sera avant. Je ne sais pas, il y aura peut-être une session extraordinaire, j'en sais rien. Quand est-ce qu'on aura les noms des ministres? Probablement dans les jours qui viennent. Ça peut durer longtemps ça aussi. Le futur ministre des Relations avec le Parlement va avoir du taf, j'avoue. Le ministre des Relations avec le Parlement, moi je vous l'avais déjà dit, pour moi c'est le ministre le plus important du gouvernement. C'est très bien d'être ministre de l'économie, c'est très bien d'être ministre de l'intérieur, c'est très bien d'être ministre de la justice et tout, c'est ouais. Mais en vrai, le vrai, celui qui compte le plus dans un gouvernement, celui que t'as intérêt à avoir un mec infaillible, c'est le ministre des Relations avec le Parlement. Parce que si lui fait mal son taf, c'est tout ton gouvernement qui part à la poubelle. Il en faudrait plusieurs même. À mon avis, il va y avoir une équipe là, ouais. Il va y en avoir deux, trois. Au cabinet du ministre des Relations avec le Parlement, avec le téléphone, en train de faire chauffer, en train de passer des coups de fil en permanence à tous les députés, tous les sénateurs, pour essayer d'arracher des majorités improbables. Est-ce que tu penses que le maire va rester ? En fait, c'est une bonne question parce que la question, c'est de savoir à quel point est-ce qu'Emmanuel Macron et Michel Barnier souhaitent matérialiser une alternance. Si tu gardes les mêmes ministres, tu envoies le message aux Français que rien n'a changé. Donc t'as quand même intérêt à ce qu'il y ait du renouveau. Et pas seulement en termes de tronche de ministres, mais aussi en termes de politique menée. Un parfum de cohabitation. Ouais, exactement, un parfum de cohabitation. C'est Emmanuel Macron qui a parlé d'un parfum de cohabitation, je crois. Quels sont les arguments avancés par Macron pour légitimer le choix de Michel Barnier ? Alors, je ne sais pas parce qu'Emmanuel Macron ne m'a pas appelé. Non. En revanche, je peux répondre à sa place. Michel Barnier est, selon Emmanuel Macron, le plus à même de ne pas être censuré. Voilà. Est-ce que Barnier pourrait nommer Lucie Castet à un ministère? Alors je vous rappelle que la nomination d'un ministre à un poste, il faut que le ministre l'accepte. Hein. Enfin, c'est pas obligatoire. Tu vois, c'est on te le propose. Et si tu dis oui, tu peux être nommé. Mais donc voilà. Donc Lucie Castet, si Barnier l'appelle, elle va répondre LOL, MDR frère. Le consentement, c'est important, oui. En même temps, est-ce que ce pays a vraiment changé? Avant, il y avait une majorité centriste de gauche partie à droite. Actuellement, on a trois tiers dont la majorité penche à droite. Il y a un peu plus d'extrême, mais pas de victoire franche. Ouais, enfin, on peut complètement voir ça. Ça revient à la question que je vous posais l'autre jour. Nicolas Sarkozy a déclaré, je cite, deux points, ouvrez les guillemets, la France n'a jamais été autant de droite. Fin de citation. Voilà. Ça s'appelle un pays de droite. La gauche fait 200 sièges. Et si on considère que les macronistes sont de droite, alors il faut cumuler tous les sièges de droite et dire, ok, bah la droite a 350 sièges à l'Assemblée. Voilà. Qu'est-ce que Louis Vuitton vient de faire là-dedans? Louis Vuitton, Premier ministre. Louis Vuitton, Premier ministre, c'est sûr. Est-ce que l'extrême droite est de droite? C'est une bonne question. Ça mérite réflexion. Je dirais plus, l'influence des médias de droite n'a jamais été aussi grande dans le PMF. Paysage médiatique français. Oui, droitisation des médias, ouais, bien sûr. Après, ça a des limites parce que Macron est pas apprécié par les Français non plus. Hein. Faut pas dire que les médias sont anti-Macron. Est-ce que l'extrême droite est gaulliste? En tout cas, elle a le sens de l'humour. Les médias ne sont pas appréciés non plus. Oui, aussi, c'est vrai. Il y a des Français qui n'aiment pas Macron car ils le trouvent de gauche. Oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Il y a des gens qui trouvent que Macron est trop à gauche. Ça, c'est certain. Philippe qui voulait incarner l'alternance à Macron en PLS. Ah non, 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 je pense que Philippe il a ses chances. Est-ce qu'on assiste à la naissance de l'alliance de toutes les droites? On est en train de la voir arriver effectivement cette alliance des droites, notamment par le move d'Éric Ciotti qui sort du Rubicon et qui annonce soutenir le Rassemblement National. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, la droite traditionnelle se range derrière l'extrême droite. C'est effectivement le projet d'union des droites, qui est rêvé, fantasmé et depuis des décennies hein, par un certain nombre de penseurs à droite et à l'extrême droite. Est-ce qu'une dissolution de Macron est possible? Oui, mais pas avant juin prochain. Faudra beaucoup d'acide. Comment la gauche peut sortir la tête de l'eau? Une question pertinente. Une question pertinente et qui a l'outrecuidance d'être pertinente depuis des décennies. J'en sais rien, mais comment la gauche peut sortir la tête de l'eau? Faut qu'elle gagne des batailles électorales. Qu'elle se rassemble. Oui, c'est un beau mot. C'est un beau mot. Mais techniquement, on fait comment? Ça sert à quoi de voter du coup s'il s'encarre le cul? C'est encore une fois. Je suis désolé, parce que j'ai l'impression d'être le mec qui apporte les mauvaises nouvelles. Le Front Populaire n'a pas remporté les élections législatives de juin 2024. Alors je sais, il y a beaucoup de responsables du Front Populaire qui le crient sur tous les toits. On a gagné, on a gagné, on a gagné. Je suis navré. Le Front Populaire a 200 députés à l'Assemblée nationale. Ça peut être la base d'une victoire, mais c'est pas en soi une victoire. Voilà. Je suis désolé, hein, je pète l'ambiance, je sais que les éléments de langage, c'est on a gagné, on doit gouverner. La réalité politique est plus complexe que ça, elle est plus subtile. Et Michel Barnier n'a pas gagné non plus, hein. Qu'on soit très clair. Bon courage, mon Michel. Mon Michou, comme on dit dans la famille. Bon courage, parce que Michel Barnier, a priori, il est soutenu par un peu plus de 200 députés. Alors, ok, c'est plus que le NFP, mais c'est pas non plus suffisant pour gouverner le pays. Michel Barnier, il va falloir qu'il trouve des compromis. Il va falloir qu'il aille arracher des votes, ou à minima des abstentions, qu'il esquive des motions de censure. Ça va pas être marrant. Déjà que c'était pas marrant pour Elisabeth Borne et Gabriel Attal. Mais eux encore, à l'époque, ils avaient 245 députés. Déjà que c'était pas confortable, là on tombe à 213, je crois, députés. Allez, salut, hein. Est-ce que des macronistes plus à gauche pourraient ne pas le soutenir? C'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. Est-ce que va y avoir... Ah tiens, très bonne question en vrai. Va-t-il y avoir des frondeurs parmi les macronistes? On a entendu Sacha Houlié qui disait que lui voulait créer carrément un groupe à gauche de la Macronie, un groupe social-démocrate, qui aurait pu hypothétiquement appuyer le NFP. Bon, il n'a pas réussi à le faire parce que personne n'a voulu le suivre. On a entendu Agnès Pannier-Runacher, dis donc, dans une matinale ce matin, je crois, déclarer que ouais, il faut nommer Lucie Castet à Matignon. Ok, Agnès, intéressant. Voilà. Va-t-il y avoir parmi les macronistes des gens qui vont se dire non, Michel Barnier, c'est très peu pour moi. Houlier, il a tweeté quoi, Houlier? Parce que moi, je suis plus sur Twitter, du coup, c'est galère à chaque fois. Sacha Houlier, il a tweeté. Incompréhension après la nomination d'un Premier ministre issu de LR. Ce parti a perdu les européennes, perdu les législatives, reculé en siège et sauvé beaucoup de députés à la seule faveur du Front républicain. Si M. Barnier applique une politique de coupe dans les services publics, refuse la justice fiscale ou entend imposer les mesures régaliennes de LR, les peines planchers, les fins de l'excuse de minorité, le retour des mesures censurées par la loi immigration, il n'a pas mon soutien. Pire encore, si comme je le lis, cette nomination se justifie par la stabilité d'un gouvernement suspendu à la bienveillance du RN. Ouh! ou il est pas content, Sacha Houlier ? Sacha Houlier, l'adhésion au Parti Socialiste n'est pas très loin. Oh putain, je vois qu'il y avait des gens qui avaient mis des tweets en disant « On t'attend sur Twitch ». Parce qu'il y a eu la nomination de Michel Barnier. Excusez-moi, j'étais en réunion en fait, c'est pour ça que j'étais en retard. Bref. De retour au Parti Socialiste. Ah oui, oui, tu as raison, pardon, de retour, Sacha Houlier. De retour au PS après 7 ans. 7 ans d'une errance malheureuse dans les arcanes du macronisme. Bon, voilà, peut-on lui pardonner ? Je ne sais pas. Mais oui, t'as raison. Donc a priori, Sacha Houlier, il n'a pas l'intention de voter la confiance à Barnier, de ce que je comprends bien. Un égarement de passage, s'il a fait amende honorable, on lui pardonnera. Mais c'est arrivé à plein de gens de faire des erreurs de jeunesse, c'est bon. Mélenchon a été rocardien, bon, voilà. Antoine Léaumont a été au Modem, c'est pas grave, voilà. Sophia Chikirou a été à l'UMP, c'est pas grave, voilà. On passe l'éponge, et puis ce qui compte, c'est ce qu'on défend ensemble. Pas grave. Ciotti a été à LR. Ouais, Ciotti a été dans la droite républicaine à une époque. Maintenant, il a mis des bottes en cuir, c'est bon, ça passe. C'est bon. Pas commencer à... Mitterrand était vichiste. Ouais, Mitterrand était à Vichy. Marine Le Pen a eu un lien de parenté avec Jean-Marie Le Pen. Bon, voilà, c'est pas... Elle a plus le même nom maintenant. Ah si, merde. Non mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Cherchez pas à me piéger, c'est bon. Choisis pas sa famille. Parfois on se fait piéger par une famille politique, tu sais. Hein, il suffit d'une jolie rencontre et hop. Chirac, il a vendu l'humanité quand il était jeune, ouais. Quand il était étudiant. Comme Jordan Bardella. Christine Boutin a été punk. Si Barnier demande un vote de confiance, comment sont comptées les abstentions ? Je t'explique, c'est très simple. Sur un vote de confiance, on ne compte que les votes pour, en fait. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin de demander aux gens qui est contre. Vous savez, d'habitude, quand on va voter une loi, on dit qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Et en fonction, tu lèves la main au moment où c'est à ton tour, quoi. Quand on fait un vote de confiance, on pose qu'une seule question. Qui est pour ? Et là, il y a 289 mains qui se lèvent. Enfin, je dis 289 dans le meilleur des cas. Voilà. Mais on ne pose pas la question de qui est contre et qui s'abstient. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, ceux qui s'abstiennent sont contre. Non ! Non, il n'y a pas de vote contre une confiance. Ça n'existe pas. Il n'y a que des votes pour. On ne peut pas dire si une personne ne vote pas la confiance, on ne peut pas dire si c'est parce qu'elle veut s'abstenir ou si c'est parce qu'elle est contre. On ne se pose pas la question. C'est comme faire parler les abstentionnistes. Faut pas le faire. Les abstentionnistes se sont abstenus. Donc tu peux pas en conclure qu'ils... Ouais, mais du coup, ils soutiennent machin. Ah bah non, tu peux pas le dire, ça. Non. Tu peux pas les faire parler à leur place, non. Et bah voilà, c'est pareil. Le vote blanc. Mais pareil, il n'y a pas de vote blanc. Puisqu'il n'y a qu'un seul bulletin possible. Est-ce que le vote de confiance est obligé ? Non ! Le vote de confiance n'est pas obligé. Le vote de confiance n'est pas obligatoire. Tu peux faire un discours de politique générale. Alors généralement, c'est ce que font les premiers ministres quand ils entrent en fonction devant le Parlement. Ils vont voir à l'Assemblée nationale et ils disent « Mesdames et messieurs les députés, voilà quelle sera ma politique. » Donc ça, c'est un discours de politique générale. Et ensuite, il peut y avoir un vote de confiance. Mais ce n'est pas obligatoire. Le premier ministre peut ne pas demander de confiance. S'il ne la demande pas, on ne la soumet pas au vote. À quoi sert ce vote? Juridiquement, il ne sert pas à grand-chose. Mais politiquement, il affirme une majorité. C'est à ça qu'il sert, le vote de confiance. Il sert à préciser, à permettre à tous les députés de se positionner qui appartient à la majorité, qui soutient le Premier ministre et qui ne le soutient pas. Ou en tout cas, refuse de se prononcer sur la confiance. Pas obligé, ça veut dire poubelle dans la pensée macroniste. Alors, je me permets de faire remarquer que si Lucie Castet était nommée Première ministre, elle ne demanderait pas la confiance. Je vous le dis tout de suite. Hein. Elle n'a pas intérêt. Quand t'as 200 députés avec toi et plus de 350 contre toi, t'as pas intérêt à demander la confiance. Que va faire la gauche maintenant? Eh bien, ce qu'elle fait de mieux, se diviser et s'opposer à Barnier. Pourquoi Macron insiste-t-il tant à ne pas écouter le peuple? Quels sont les enjeux économiques derrière tout ça? En fait, les résultats des élections législatives de juin 2024 sont interprétables de différentes manières. Plusieurs formats peuvent revendiquer une forme de victoire, et encore à chaque fois elle est relative. Donc, Emmanuel Macron tire la conclusion de ses consultations que Michel Barnier est le candidat qui aura le plus de chances d'échapper à une motion de censure. On verra s'il a raison lorsqu'il y aura des votes à l'Assemblée sur des motions de censure. Il y a plusieurs manières, il y a la bonne et la mauvaise. Ah bah ouais. Et puis la bonne manière, c'est ceux qui sont d'accord avec moi. La mauvaise, c'est ceux qui sont pas d'accord avec moi. Évidemment. Si vous pensez pas comme moi, c'est que vous êtes dans l'erreur. Je vous le rappelle quand même, excusez-moi. Mais mon opinion politique est scientifiquement prouvée. J'ai raison. Et vous, vous êtes dans l'erreur, malheureusement. C'est dommage pour vous, hein. Mais bon. ce que je pense vrai par rapport à une première ministre de gauche. Ce qui est, je pense, vrai par rapport à une première ministre de gauche. C'est une bonne question. En réalité, je suis d'accord avec toi et en même temps, je demande à voir. Est-ce que Lucie Castet aurait pu, elle aussi, échapper à une motion de censure? Je pense que c'est possible. Je sais pas. Vu que le RN a dit qu'il proposerait pendant leur niche la suppression de la réforme des retraites, si Macron ne veut pas de motion de censure, il sera coincé. Ah, c'est intéressant ça. Si le RN propose l'abrogation de la réforme des retraites, est-ce que la gauche le vote? Bonne question. Tu peux répéter la question? Attends, on va faire un sondage. Hop. Hop, et je vous laisse voter pendant 2 minutes. Hop, voilà. Est-ce que la gauche vote la loi RN d'abrogation de la réforme des retraites? Yael Braun-Pivet demande au président de convoquer une session extraordinaire. Bah, elle a raison. Yael Braun-Pivet, c'est la présidente de l'Assemblée nationale. Elle estime que là, maintenant, il faut réunir. David Lisnard félicite la nomination de Hockey. Xavier Bertrand adresse à Michel Barnier tous ses voeux de succès. Thierry Baudet déclare qu'il est temps de s'intéresser au pays et aux Français. Fabien Roussel estime que la nomination de Michel Barnier est un bras d'honneur aux Français. La passation de pouvoir entre Gabriel Attal et Michel Barnier aura lieu à 18h. Ok. On n'a pas d'infos sur la composition du reste du gouvernement. Ah bah non, pas encore. Ah bah non, non, Michel Barnier, maintenant, il doit composer son gouvernement. Est-ce que l'attitude de la gauche actuelle n'est pas aussi un bras d'honneur à tous les électeurs du RN également? Ils sont tout de même systématiquement niés. Alors c'est plus que de la négation, hein. La gauche s'oppose à la volonté des électeurs du Rassemblement National. Ça s'appelle une opposition politique. Je sais bien que l'idée que tout le monde il est gentil, on se met autour de la table, on fume le calumet de la paix, on s'assoit ensemble, c'est tentant, mais il y a des gens dans ce pays qui sont antifascistes, il y a des gens dans ce pays qui sont antiracistes, il y a des gens dans ce pays qui sont contre la colonisation. Enfin tu vois, c'est... Il y a des convictions, en fait, qui transportent les gens. Et donc, ça s'appelle de l'opposition. C'est un rapport de force. Voilà. La CGT a fortement tendance à être peu sympathique avec les patrons, par exemple. Bah, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts. En même temps, ces mêmes électeurs RN n'acceptent pas la gauche. Oui, au demeurant, oui, t'as raison, oui. On peut retourner le stigmate. Barnier fera-t-il une proportionnelle ou fera-t-il quelque chose dans un violon? Bah écoute, Marine Le Pen a déclaré que elle censurerait un gouvernement qui ne ferait pas la proportionnelle. Si Michel Barnier veut éviter la censure du RN, il a intérêt à la faire. C'est pas très LR la proportionnelle. Ah, les Républicains détestent la proportionnelle, évidemment. Bien sûr. Le silence des commentateurs politiques contre ce déni de démocratie, c'est quel genre de complaisance? C'est fou ça! Les commentateurs politiques qui disent pas la même chose que moi. Ils sont complices du système. Ça doit être ça. La proportionnelle qui aurait donné le même résultat. Ah ça, je suis d'accord avec toi! Ça, je suis d'accord avec toi, la proportionnelle, je vois pas très bien qu'à l'Assemblée, ça nous donnerait, quoi. Faut-il forcément que la proportionnelle soit proposée par le gouvernement? Non, elle peut être faire l'objet d'une proposition de loi, mais techniquement, ça revient en même. Enfin, on s'en fout. que l'initiative soit gouvernementale ou parlementaire, au bout du bout, il faut qu'il y ait un vote sur une loi qui instaure la proportionnelle. Voilà, c'est tout. De quelle proportionnelle parle-t-on ? Pardon, la proportionnelle, c'est l'élection législative au scrutin proportionnel. C'est une demande du Rassemblement national. C'est une demande également de la gauche que l'on change de mode de scrutin pour les élections législatives, qui aujourd'hui se fait au scrutin uninominal majoritaire par circonscription, et qu'on remplace ça par un mode de scrutin à la proportionnelle, comme il y a dans la plupart des pays. Ça veut dire que, au lieu de d'élire un député par circonscription, on votera pour des listes de députés au niveau national, régional ou départemental, ça on verra, peu importe, et on répartira les sièges de l'Assemblée nationale à la proportion du score des partis politiques. Donc, Marine Le Pen pense qu'à la proportion, elle pourra bénéficier de plus de 33% des sièges. Un tiers des députés serait automatiquement RN. C'est pour ça que Marine Le Pen le souhaite. Et on peut pas lui donner tort, hein, d'un point de vue purement tactique. Elle a intérêt à ce qu'il y ait une proportionnelle dans ce pays, oui. Parce que, je vous rappelle, s'il y a une proportionnelle, il n'y a plus de front républicain. Sauf si on fait une proportionnelle à deux tours. On verra, on fera des streams. Le moment venu, on fera des streams, on discutera de tout ça, etc. Mais voilà. Les forces de barrage sont moins puissantes avec une proportionnelle qu'avec une majoritaire. Quel est l'intérêt de la gauche alors ? Alors pourquoi est-ce que la gauche demande la proportionnelle ? Déjà pour des raisons historiques, la gauche n'a jamais aimé le scrutin majoritaire, c'est un truc de gaulliste, hein, le scrutin majoritaire, c'est De Gaulle hein, qui a voulu qu'on ait un scrutin majoritaire. Les socialistes, eux, préféraient avoir un scrutin proportionnel. Ils l'ont mis en place une seule fois, c'était en 1986. Ça n'a pas été un bon souvenir pour les socialistes, 1986, donc ils n'ont pas continué. Ils ont dit non, finalement on va revenir au scrutin majoritaire. C'est... Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire ? Et l'autre raison, c'est que la proportionnelle, ça permet d'éviter de s'emmerder et avoir des discussions de type NUPES ou NFP. Parce que si vous faites une élection à la proportionnelle, vous n'avez pas besoin de vous mettre d'accord avant l'élection entre partis. Bah non, c'est les électeurs qui choisiront. On s'en fout. Regardez les européennes. Il n'y a pas besoin que les groupes politiques se mettent d'accord avant l'élection, puisqu'aucune voix n'est perdue de toutes les façons. Donc chacun vote pour le parti qu'il préfère, et puis advienne que pourra. Et à l'issue du scrutin proportionnel, on verra qui a le leadership à gauche ou à droite. La proportionnelle, c'est la fin des majorités absolues à l'Assemblée nationale. Non ? Non ? Alors, dans le paysage dans lequel on est actuellement, c'est chaud. Mais une majorité à l'Assemblée nationale, ça peut être une coalition. Ciao le PS. Ah non, a priori le PS a plus de poids qu'à LFI à la proportionnelle. Si on tient compte, pardon, des résultats des seules élections proportionnelles qu'on a eues récemment, qui sont les européennes. Je répondais à quoi comme question avant ? Oui, c'était la fin de la majorité absolue. Non, c'est pas la fin de la majorité absolue parce qu'on négocie. Dans tous les pays d'Europe, on négocie. On fait une élection à la proportionnelle. Et une fois que le score est donné, et ben là on négocie. On se met d'accord après l'élection. Au lieu de le faire avant, on se met après. Regardez l'Allemagne. L'Allemagne, il n'y a pas de coalition. Chaque parti présente des candidats. On voit les résultats. Et après les résultats, il y a les sociodémocrates, les écologistes et les libéraux qui se mettent autour de la table et qui disent « Bon, on a intérêt à gouverner ensemble. Mettons-nous d'accord. » Et voilà quelle sera la coalition au gouvernement. Est-ce qu'il y a un choc générationnel entre les vieux qui votent plus à droite et les jeunes plus le NFP ou à l'extrême droite ? C'est plus subtil que ça. C'est plus subtil que ça. Il y a des grandes tendances, effectivement, sur les personnes retraitées. Notamment, tu as un phénomène récent, c'est le vote RN pour les retraités. Pendant assez longtemps, les retraités ne votaient pas RN. Ils étaient beaucoup plus modérés que ça. Ils aimaient pas ça, les retraités, l'extrême. Qu'elle soit droite ou gauche, mais l'extrême droite, les retraités, ils aimaient pas trop. Ils avaient un vote plus modéré, plus conservateur, plus centriste. Bon. Mais là, depuis quelques décennies, on voit l'émergence d'un vote retraité RN très puissant. Très, très puissant. Et les jeunes, ils s'abstiennent d'abord, hein, je vous rappelle. Les jeunes, le premier vote des jeunes, c'est quand même l'abstention. Donc, la proportionnelle permet une meilleure représentation de l'ensemble des votants puisque chaque vote est pris en compte. C'est une manière de voir les choses, mais c'est pas juste de dire qu'il y a des votes qui ne servent à rien dans le scrutin majoritaire. Il y a des gens qui perdent l'élection, ça c'est sûr. Non, il y a un autre truc qui est important, j'en parlais avec Mélanie Vogel. Mélanie Vogel, la sénatrice écologiste, grande défenseuse du scrutin proportionnel. Et elle me disait, avec le scrutin majoritaire et le NFP, aucun député, aujourd'hui par exemple, vous prenez les députés de gauche à l'Assemblée nationale, aucun d'entre eux ne peut prétendre avoir été élu par des électeurs chimiquement purs de son parti. C'est pas vrai. Tous les députés du Nouveau Front Populaire ont été élus par un peu d'électeurs du parti d'à côté, un peu d'électeurs socialistes ont voté LFI, un peu d'électeurs LFI ont voté socialistes, communistes, écolos, ça dépendait des circonscriptions, etc. Donc du coup, les mecs arrivés à Paris à l'Assemblée nationale, il n'y en a aucun qui peut prétendre être un député de son parti. Ah non, mais moi j'ai été élu par des électeurs socialistes, je suis un électeur socialiste, je ne dois rien à LFI. Bah c'est pas vrai en fait. Frère, t'as été élu avec des voix LFI aussi. Si tu fais un scrutin à la proportionnelle, alors là par contre, 100% des députés peuvent prétendre avoir été élus par des électeurs chimiquement purs de leur parti. Ça facilite pas toujours les négos, je vais pas vous mentir, mais... Du coup, on vote plus par circonscription en proportionnelle. Alors, tu as deux manières de faire la proportionnelle. Tu as la proportionnelle intégrale. C'est-à-dire que... Enfin, non, c'est pas tout à fait ça, la proportionnelle intégrale, pardon. Indépendamment du caractère intégral ou pas, tu as la possibilité de faire une élection proportionnelle avec des listes nationales. C'est facile. Tu demandes à chaque parti politique de France de déposer une liste de candidats pour toute la France. C'est ma liste de candidats. Voilà, nous, les Insoumis, nous proposons cette liste de candidats. Ce sont nos candidats. Machin, etc. Et tous les électeurs ont la possibilité, partout en France, de voter pour cette liste. Okay? Ça crée une représentation proportionnelle nationale avec des partis politiques qui ont un score national et qui disent, bah voilà, nous, on représente 22% des Français. Comme ça, on a 22% des députés à l'Assemblée. Le problème de ce mode de scrutin-là, c'est que tu favorises la présence de Parisiens, en fait, à l'Assemblée nationale. Bah oui, parce que les partis, en général, ils mettent en tête de liste bah, des apparatchiks, des gens qui sont dans les arcanes du parti, etc. Et t'as pas vraiment une bonne représentation territoriale de la France. Du coup, pour éviter ça, ce que tu peux faire, c'est faire toujours la même chose, des proportionnels, mais cette fois-ci, tu fais des proportionnels par département. C'est-à-dire que dans chaque département, il y aura une proportion. On répartira à la proportion le nombre de députés du département qui iront à Paris. C'est un peu le mode de scrutin que tu as au Sénat, où dans certains départements, les sénateurs sont élus à la proportionnelle, et dans d'autres départements, ils sont élus au scrutin majoritaire, c'est notamment les départements les moins peuplés. Où là, bon, on n'élit qu'un seul sénateur, donc on vote direct. En fait, c'est un scrutin majoritaire, mais c'est pas grave. Donc on peut faire un système mixte comme ça, tu vois. On peut faire ça. Et encore, j'ai utilisé le mot département, mais techniquement, on peut décider aussi de faire une proportionnelle par région. On peut. C'est possible. Et au moins l'intérêt de ce mode de fonctionnement-là, c'est que tu te garantis qu'à l'Assemblée nationale, il y aura des députés de tous les départements du pays, y compris la Corse, y compris la Martinique, etc. C'est injuste au niveau des départements? Bah non, c'est pas injuste au niveau des départements, parce qu'au contraire, encore une fois, tu garantis la représentation de tous les territoires de la République, en fait, de tous les citoyens. Ce serait injuste qu'il y ait une Assemblée nationale où il n'y ait aucun Corse. Bah, ce serait dégueulasse. Et pourquoi les Corses ne seraient pas représentés eux aussi? Ah ouais, mais en échange, on a plein de Parisiens. Ah bah super. Super la représentation du pays. J'adore. Les départements les plus peuplés auront plus de députés. Ah bah oui. Ah bah oui. C'est le cas aujourd'hui, hein. Je vous rappelle qu'à Paris, il y a plus de députés que dans la Creuse. Pour la simple et bonne raison qu'il y a plus d'habitants. C'est pas une question de Creuse et de Paris, hein. Le fait est que dans la Creuse, il y a moins d'habitants qu'à Paris. Bon bah voilà, pour représenter les Parisiens, il y a plus de députés. C'est toujours la Corse dans ton exemple. Bah c'est l'exemple que je prends parce que je trouve qu'il est plus parlant. Ouais, je prends toujours l'exemple de la Corse, c'est vrai, vous avez raison. Ah tiens, je pourrais dire la Martinique. Ce serait encore plus choquant. Vous imaginez l'Assemblée nationale où il n'y a pas de députés d'outre-mer? Ah bah super. Super la République. Super. Un petit relent colonial. La représentation à l'Assemblée nationale des populations, c'est pas très colonial, ça au contraire. C'est plutôt décolonial. Que penses-tu du jugement majoritaire où tu dois mettre un classement de tes candidats préférés? Oh, mais c'est très bien ça. Tu peux imaginer plein de trucs comme ça. Après, la manière de compter les bulletins est indépendante du mode de scrutin. Tu peux très bien faire un jugement majoritaire dans une élection proportionnelle. Et tu peux très bien faire un jugement majoritaire dans une élection majoritaire. J'en fous, la manière de compter les bulletins. Moins de députés à l'Assemblée nationale, bonne ou mauvaise idée? Ouais, alors ça aussi, c'est un peu la marotte depuis plusieurs années, les gens qui proposent de réduire le nombre de députés et de sénateurs. Comme si le nombre était un problème. Écoutez, moi je ne suis pas fétichiste du nombre, j'en ai rien à foutre. On peut réduire si on veut le nombre de députés, on peut augmenter si on veut le nombre de députés. Tu peux faire une Assemblée nationale avec 1 million de députés, mais qui a aucun pouvoir. Bah je trouve ça à chier. Tu peux faire une Assemblée nationale avec très peu de députés, mais qui a vraiment beaucoup de pouvoir parlementaire et d'initiative et tout. Et à ce moment-là, je préfère, ouais. Mais franchement, pour moi, le nombre de députés, c'est pas. C'est pas déterminant. Macron l'avait proposé. Ouais, Macron l'avait proposé, ouais. Macron l'avait proposé. C'est pas le seul, hein, c'est pas le seul. Il y a d'autres camps politiques qui avaient proposé différentes formules de réduction du nombre de députés, hein, et de sénateurs. C'est pas la taille de l'Assemblée qui compte, c'est les sentiments. C'est une représentation plus granulaire si tu as plus de députés. Oui, si tu veux, oui, tu maximises les chances statistiquement d'avoir plus de diversité, etc. Oui. Encore une fois, le nombre de députés m'importe assez peu. C'est surtout le pouvoir qu'ont les députés qui m'intéresse. L'Union soviétique, ils faisaient des assemblées avec un nombre incalculable de personnes, mais c'était que des délégués du parti unique, et qui passaient toute la séance à applaudir les propos de Staline. Bon, franchement, ça vaut pas le coup de rassembler des milliers de personnes à Moscou, hein. Si c'est juste pour applaudir le chef, chiant. Comme en Chine, ouais, c'est ça. Alors franchement, paye ton parlement, quoi. C'est quoi le truc noir et jaune que t'avais dans la main? C'est un fidget toy. C'est un jouet pour les doigts. J'en ai plein. J'ai un fidget spinner. Un hand spinner, pardon. Il est un peu grippé maintenant. J'ai un cube aussi. C'est pour bien faire mon métier, je suis obligé. Pourquoi les scientifiques ne sont pas au cœur du processus parlementaire ? Qu'est-ce que tu voudrais qu'ils y foutent, les scientifiques, dans le processus parlementaire ? Non, je sais pas, enfin, on peut en discuter, hein. On peut discuter de tout. Mais en ce qui me concerne, je préfère que le peuple soit au cœur du processus parlementaire, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Un scientifique, c'est un bon gars, donc de gauche selon le chat. Ah ouais. Mais non. Il faut des érudits qui sachent les tenants et les aboutissants pour pouvoir voter. Mais tes érudits, qui donc savent les tenants et les aboutissants, ils pourraient simplement dire aux députés ce qu'ils en pensent. Genre, ils pourraient être consultés dans le processus d'élaboration des normes. C'est un peu le risque du gouvernement technocratique, comme on disait par le passé. Je vous rappelle que l'expression de l'Assemblée n'a pas vocation à être du domaine du vrai ou du faux. L'Assemblée, quand elle vote un truc, elle n'a ni raison ni tort. C'est pas le débat, c'est pas le sujet, c'est pas l'enjeu. L'Assemblée, elle émet une volonté. Elle émet un souhait, qui est le ferment de la loi, du droit, l'expression de la volonté générale. Quand on parle de volonté générale, on parle bien de volonté, pas du savoir général. Non, c'est la volonté générale qui s'applique. En politique, la notion de, en tout cas en démocratie, pardon, la notion de vrai et de faux, c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est la notion de juste et d'injuste. De souhaitable ou de non souhaitable, de désirable ou de non désirable. C'est ça dont il est question quand on débat à l'Assemblée nationale. Qui a voté les lois de la physique? C'est vrai ça, les lois de la physique, elles ont été débattues quand? Quand est-ce qu'on m'a demandé mon avis, moi, sur la gravitation? La science n'est pas démocratique. La vérité n'est pas démocratique. Le réel n'est pas démocratique. Ça, il faut l'accepter. Tu peux... Ouais. Tu peux voter. Tu peux voter, si tu veux, le retour des hirondelles au printemps. Tu peux. Tu peux faire un débat à l'Assemblée avec un vote. Nous souhaitons le retour des hirondelles au printemps. Bon, bah, l'été suivant, le printemps suivant, les hirondelles vont pas revenir en fait, parce que le dérèglement climatique, etc. En fait, on s'en branle de la volonté populaire en matière de science. La science s'en fout de la volonté. Il existe une vérité en économie, non. Un consensus scientifique, non. Non, non, il n'y a pas de consensus scientifique en science économique. C'est même la raison pour laquelle les scientifiques font de la recherche. Et quand bien même, d'ailleurs, il y aurait un consensus ou je sais pas quoi. Encore une fois, on s'en branle. L'enjeu du Parlement, quand il vote, c'est de dire ce qui est du domaine du souhaitable. On souhaite plus de justice sociale, par exemple. Ou on souhaite plus de liberté d'action pour les entreprises. Et c'est ça qu'on vote. Et si c'est pas réalisable, eh ben ça se réalise pas. Encore une fois, le retour des hirondelles au printemps. Tu peux le voter, tu peux le souhaiter, mais si c'est pas réalisable, c'est pas réalisable, pour de très bonnes raisons. Je vous ai parlé des moineaux de Mao. Vous avez déjà raconté ce truc-là? Les moineaux de Mao. Dans les années 50, Mao Tse-tung, qui dirigeait la Chine communiste, oui, il y en a qui s'en souviennent. Bon, bah pour ceux qui n'étaient pas là. Dans les années 50, Mao Tse-tung, qui dirigeait la Chine communiste, a mené des grandes réformes économiques, agricoles, etc., pour essayer de rebooster tout ce bordel. C'était avant la révolution culturelle. Hein. Et il a essayé d'accompagner et d'aider le domaine agricole en Chine. Il a voulu aider les fermiers, aider les machins. Alors évidemment, comme d'habitude avec les communistes, ils avaient mis en place un système de collectivisation des terres qui était très peu efficace et qu'ils n'arrivaient pas à cultiver assez de bouffe. Mais Mao Tse-tung a lancé, pour aider les agriculteurs, un plan de lutte contre les nuisibles. C'était les bestioles qui mangeaient les graines, qui foutaient le bordel dans les campagnes. Voilà. Et donc, c'était une campagne d'éradication. Alors, il y avait les moustiques, il y avait les rats, il y avait les moineaux. Et il y avait, je sais plus le 3, un quatrième truc. C'était la campagne des quatre nuisibles. Les grillons aussi? Non, les grillons, je suis pas sûr. Ah si, peut-être. Bref, peu importe. Il y avait notamment les moineaux. Et donc les Chinois étaient incités par le parti unique, par l'appareil d'État, par la propagande, etc. Il fallait buter tous les moineaux. Il fallait buter tous les moineaux de Chine. Et donc les Chinois, ils avaient notamment une technique, c'est qu'ils se mettaient dans les champs avec des casseroles et des cuillères, ils tapaient très très fort, ils faisaient beaucoup de bruit, et ça empêchait les moineaux de se poser. Du coup les moineaux volaient, puis finissaient par mourir d'épuisement. Et c'était le but du jeu, donc c'était d'éradiquer les moineaux de Chine, parce que les moineaux, pourquoi? Parce que les moineaux, ces connards, ils mangent les graines. Bah ouais, que du coup quand tu sèmes les graines dans un champ, bah t'as plein de moineaux qui viennent bouffer des graines avant que la graine ait le temps de germer. Et donc, super idée, on met en place une grande politique de lutte contre ces saloperies de moineaux qui bouffaient les graines. Et ça a très bien marché. Ça a très très bien marché, ça a été une excellente politique. Il y a eu une éradication en Chine des oiseaux, d'une manière générale, et des moineaux en particulier. Ça a été constaté, les ornithologues, etc., ils confirment, etc., il n'y avait plus de piaf en Chine. C'était un véritable succès de cette politique du camarade Mao. Le problème, c'est que la Chine s'est rendu compte dès l'année suivante que les moineaux, à part bouffer des piafs, à part bouffer des graines, ils avaient quand même une utilité dans la régulation de l'écosystème, c'est qu'ils étaient un prédateur des sauterelles. Et oui, ils bouffaient des sauterelles, les moineaux. Sauf que là, il n'y a plus de moineaux. Ils sont tous morts, on les a tous butés. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé l'année suivante? Il y a eu la plus grande crise humanitaire de l'histoire de la Chine, qui a commencé avec une invasion de sauterelles qui ont ravagé toutes les cultures. Et alors là, il n'y avait vraiment plus rien à bouffer. Et ça a été le début. Alors c'est considéré, même si c'est multifactoriel, mais c'est considéré comme l'une des causes de la grande famine chinoise des années 50, où des centaines de millions de personnes sont mortes de faim. À cause, entre autres, de ce problème de sauterelles, mais aussi des problèmes d'organisation avec la collectivisation qui a été mal faite, mal pensée, etc. Donc cette histoire des oiseaux de Mao est restée comme un très très bon exemple de désastre écologique, en fait, parce que c'était un désastre écologique, et de très bon exemple de mauvaise prise de décision politique. Sur le moment, tu penses faire le bien, parce que tu supprimes un nuisible pour les agriculteurs, mais en réalité, sur le long terme, tu fais un mal fou à l'ensemble du pays. C'est entre 15 et 55 millions de morts, la grande famine? D'accord, ok. Donc, pourquoi je disais ça? Ah oui, on parlait de la place de la science et de la vérité dans la politique, etc. Bah tu vois, c'est un très très bon exemple. Entre le souhait que tu émets de faire une réforme agraire et le mépris que tu peux avoir pour les indications des scientifiques qui sont là pour te dire « Arrête, tu vas faire une connerie ». Mais c'est un débat qu'on peut avoir si vous le souhaitez et qui est intéressant intellectuellement. Faut-il mettre des scientifiques au pouvoir? Parce que les scientifiques, eux, ils savent. Je pense que c'est une très mauvaise idée. Et que c'est une très 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 mauvaise manière de se représenter le rôle de la science dans le processus politique. Parce que, encore une fois, si un scientifique, et si la science peut être amenée à nous apporter des informations sur ce qui relève du vrai et du faux, la science ne sait pas répondre à la question de ce qui est du souhaitable et du désirable. Parce que ça ne la regarde pas en réalité, c'est pas son job. La science est totalement incapable de me dire ce que je préfère entre la vanille et le chocolat. C'est normal, c'est pas son job, en fait, c'est moi, j'ai des goûts. Et ben c'est pareil en politique. C'est pareil en politique. La science est objective. Absolument, la science est objective. Or, nous avons le malheur de ne pas être des objets. Je ne suis pas une table basse, je suis un humain. Je suis donc un sujet, j'ai donc une subjectivité. Et ma subjectivité, alliée avec celle de mes quelques dizaines de millions de compatriotes, fabrique un débat public, politique, qui amène éventuellement à des prises de décision. Donc, tes besoins sont objectifs. Bah oui, mais enfin, je les hiérarchise aussi. J'ai besoin de faire du sport. J'ai aussi besoin de faire une sieste. Je crois que je vais préférer faire une sieste aujourd'hui plutôt que d'aller courir. C'est un choix. J'ai arbitré, j'avais deux besoins. Il se trouve qu'ils n'étaient pas cumulables. Donc j'ai arbitré. T'es fou, hein? Ben voilà, c'est ma petite décision politique et subjective. On a le même arbitre. Allez, tier liste des besoins. Il est 15h30, les copains. Moi, je propose qu'on s'en tienne là. C'est bon, on connaît l'identité du Premier ministre. Ça y est, c'est bon, on a la réponse. Tout commence pour lui, Michel Barnier, qui va devoir maintenant composer un gouvernement, première étape, puis aller présenter un discours de politique générale au Parlement à l'issue éventuellement d'un discours de politique générale. Quelle va être la politique de Barnier Ier? On verra bien. Lui qui nous revient de Bruxelles et qui a accepté de devenir notre Premier ministre dans une situation assez inextricable à l'Assemblée nationale. On verra ce que ça donne. J'ai hâte. Je viens d'arriver, est-ce que c'est légal de choisir un Premier ministre qui n'est pas du parti majoritaire? Ah, il y a un parti majoritaire à l'Assemblée? Ah oui, c'est vrai, t'as raison, il y en a un, il s'appelle le Rassemblement National. Ouais, c'est légal de ne pas nommer un Premier ministre issu du parti majoritaire, absolument. Il me reste à vous dire merci à toutes et à tous, passez une bonne soirée. Je vous fais des bisous et on rediscute probablement demain de toutes ces affaires. À très bientôt, ciao ciao.